Vous avez pas fait trop d'indigestion de chocolat ce week-end?
Oh, ça va. Bah, juste avant Pâques, là, il y a Flavien qui est venu à la maison. On a fait quelques jeux et tout. C'était cool.
Salut Cyrus, salut Lodi.
Salut Drew.
Ah, salut Drew. La forme?
Ça va, ça va. Les beaux jours reviennent.
Ouais.
Enfin, presque. Hein. C'est un peu la pluie en ce moment, mais ça arrive, ça arrive.
Ah, ici, le soleil, ça, il est revenu.
Vous parliez de quoi?
On parlait de chocolat de Pâques et de la venue de Flavien chez Cyrus.
Ouais, il est venu chez moi. On a fait pas mal de jeux, du coup.
Ah ouais, t'as joué à quoi?
Eh ben, écoute, il avait ramené pas mal de jeux et il m'a fait découvrir Revolver Noir. D'ailleurs, on y a joué. Enfin, il l'a découvert aussi. Donc, je pourrais dire plutôt, on a découvert ensemble Revolver Noir. C'est un jeu là qui est, tu sais, dans la gamme des microgames, là, Matago, là, les jeux.
Ouais, les jeux en portefeuille, là,
ouais,
en porte-carte, on va dire.
Ouais. Bon, j'avoue que pour l'instant, j'ai pas été enthousiasmé par beaucoup des jeux de cette gamme. Flavien, il en achète pas mal, mais moi, j'en ai acheté un petit peu au début, puis j'en suis vite revenu, quoi. Il y a à dire que c'est quoi la Vallée de la Mort, j'ai bien aimé. Bon, j'avais quand même acheté, c'est quoi, Agropolis, là, ou je sais plus quoi, là, qui. je sais même plus. Megalopolis,
ouais,
c'est ça, mais en fait, oui, c'était Sprolopolis, qui est devenu Megalopolis. Et
ouais.
Après, ils ont fait une version Agropolis, je crois. Ouais, c'est pour ça que je retrouve plus mes petits là-dedans. Ah, bref, ouais. Celui-là, je l'avais trouvé pas trop mal. Et là, donc, ouais, il m'a fait ses Revolver Noir. C'est un jeu uniquement à deux. Est-ce que vous avez déjà vu Mr. and Mrs. Smith, le film?
Je crois que je l'ai vu. Ouais.
Yes, même la série qui vient de sortir, là, qui est pas mal. Hein.
Ah, il y avait une série?
Il y a une série, ouais.
Ouais. Ah d'accord, le film c'était avec...
C'est avec Brad Pitt et Angelina Jolie, non?
Ouais, c'est ça, ouais. Et il y a une scène dedans, où parce que je crois que l'histoire c'était des agents secrets, je crois, tous les deux, ou je sais plus, enfin, j'ai vu ça il y a super longtemps. Et il y a une scène assez connue pour le coup, où à un moment ils se tirent dessus dans la baraque et tout, quoi, et ils essaient de s'assassiner, ou je sais plus trop quoi exactement. Mais en gros c'est ça le jeu, quoi, voilà, c'est le jeu à deux, et c'est deux persos qui sont dans une baraque, et ils essaient de se tuer. Donc c'est toi déjà de niveau thème, c'est pas commun. Hein.
Mmh.
Je sais pas si c'est le film d'ailleurs qui a inspiré l'auteur. C'est Xavier Davidson l'auteur. Il a fait que ça comme jeu, donc je sais pas. Après c'est des trucs. Je crois que c'est pas beaucoup de jeux qui sortent de Game Jam ou de trucs comme ça. Souvent en tout cas des.
Ouais souvent. Ouais,
ouais des concours de jeux en 18 cartes. Là. Et du coup, bah, le principe, c'est que t'as un set de cartes dans ta main. Enfin, tous les deux joueurs ont les mêmes cartes, quoi. Et t'as deux actions, je crois, à ton tour. Bon, on a joué qu'une fois, hein, donc je suis pas forcément ultra OP sur les règles, mais t'as deux actions à ton tour. Globalement, tu peux te déplacer pour une action. Tu peux. Je crois que si tu tires, ça te bouffe tes deux actions. Mais tu peux faire des trucs, tu peux aussi écouter. Et là, dans ce cas-là, l'autre, par exemple, il doit te dire, il doit t'indiquer une pièce voisine de la sienne, globalement. Enfin, voilà, c'est des trucs un peu dans ce style-là, quoi. Le principe, en gros, c'est d'essayer de débusquer l'autre, de savoir où il est, et de lui tirer dessus deux fois. Il faut lui tirer dessus deux fois pour réussir à gagner la partie. Et en fait, t'as tes cartes dans ta main, et ça joue un peu en mode Palm Island.
Mm-hmm.
Vous voyez, en gros, t'as toujours les cartes dans ta main. Quoi. C'est, tu peux... Nous, on avait joué dans le canapé, tu vois. Et puis, t'as des actions spéciales aussi dans chaque lieu. Et du coup, quand tu fais ces actions-là, tu révèles le lieu où t'es. Quoi. Donc, c'est aussi le risque. Le risque, évidemment, c'est-à-dire que derrière, il faut que tu te barres ou tu sois à peu près sûr que l'autre, il est loin. Quoi. Oui, tu peux poser des pièges aussi. Tu peux poser un piège globalement dans la pièce où tu te trouves. Et le piège, du coup, bah, tu peux aussi le déclencher. Donc, tu peux être ailleurs et déclencher le piège dans la pièce dans laquelle tu étais précédemment. Et dans ce cas-là, tu te dis à l'autre, bah, je déclenche un piège dans telle pièce. Tu vois. Et du coup, s'il est dedans, bah, il se fait blesser. Quoi.
Comment tu matérialises dans quelle pièce tu es
La pièce dans laquelle tu es, en fait, tu la mets devant, tout simplement. Dans les cartes que tu as en main, en fait, c'est celle qui est devant. Alors évidemment, mais il faut avoir confiance en l'autre. Hein. Et puis, il faut être bien quand même au clair sur les règles. C'est quand même pas mal foutu parce que c'est marqué sur les cartes. En gros, si tu es dans telle pièce, genre tu es dans la cuisine, tu peux aller dans la chambre ou tu peux aller, je sais plus exactement, mais c'est le hall et puis je sais plus trop quelle pièce, la salle à manger ou je sais plus quoi. Enfin, bref, t'as vraiment, c'est marqué sur la pièce où est-ce que tu peux aller. Et là où tu peux tirer, c'est pas forcément la même pièce. C'est-à-dire que des fois, il y a des pièces en plus ou en moins, selon la communication entre les pièces, par exemple, c'est un escalier, ben, en fait, tu peux y aller, mais tu peux pas tirer dans la pièce d'à côté, tu vois. Alors qu'il y a des pièces, par exemple, il y a une balustrade, et ben, du coup, tu peux tirer depuis la balustrade. mais tu peux pas te déplacer de base depuis la balustrade. Enfin, il y a des trucs comme ça, quoi. Donc, mais tout ça, c'est quand même écrit sur les cartes où tu peux tirer et où tu peux aller. Donc du coup, il faut, tu vois, t'as des trucs de déduction comme ça. Il faut quand même bien connaître un peu le la topographie, j'ai envie de dire. Donc t'as une petite carte en fait de, enfin t'as une carte sur laquelle tu as la map de la maison, quoi. Donc chacun a ça un peu en aide de jeu, en gros, quoi. C'est du coup, c'est hyper original comme jeu. Moi j'ai plutôt bien kiffé, quoi. Et donc ça joue à deux en théorie, mais apparemment il y a plein d'autres modes de jeu d'après ce que m'a dit Flavien. Enfin déjà j'imagine assez facilement que il y a des modes de jeu que tu peux jouer tout simplement en ayant deux fois le jeu. Donc il y a des modes de jeu à quatre, tu vois, où tu joues soit par équipe soit pas, quoi. Ça peut être vraiment en mode chacun pour sa peau. Après je crois qu'il y a une extension qui existe, mais elle est pas sortie en français, où t'incarnes des rôles et donc t'as des petits pouvoirs en plus, et j'ai bien compris. Voilà, quoi, c'est franchement ouais, ça m'a assez scotché, quoi. Alors, ils te disent c'est 15 minutes la partie, nous on a été vachement plus long que ça, parce que je sais pas, on devait être très mauvais, ou c'est trop rien, ou très bon, justement pour s'esquiver.
Vous tourniez en rond dans le même sens, en fait.
Ouais, je sais pas. Mais c'est vraiment rigolo, parce que t'as vraiment ce truc de ah, attends, je vais aller là, attends, si ça se trouve, il y est, si ça se trouve, il a posé un piège à cet endroit-là. Il y a des trucs qui, tu vois, ergonomiquement, c'est pas évident quand même, parce que, enfin, il y a des moments. Comment dire, en fait, t'as les cartes dans ta main, et donc quand tu mets, je sais plus ce qui m'avait fait tiquer. Ah oui, parce que quand tu mets un piège, t'es forcément dans la pièce où tu te trouves, mais il y a une pièce dans laquelle l'effet spécial, c'est d'aller poser un piège n'importe où. En gros, tu vois, ça active un piège dans n'importe quelle pièce de la baraque. Sauf que si tu le fais vraiment dans la pièce où tu te trouves, bah ça se voit un peu, quoi. Tu vois, si tu regardes la main de l'autre en train de maniper, tu vas voir en fait qu'il est en train de poser le piège dans la pièce où tu te trouves, quoi. Donc le matériel réduit, bah il est cool d'un côté, mais d'un autre côté, tu vois, pour jouer un peu sérieusement et tout, tu voudrais avoir un paravent pour te mettre derrière quand même. Ouais. Tu voudrais limite que la map elle soit plus grande au milieu pour que ce soit bien visible, que ce soit plus clair, tu vois. Donc il y a moyen de custom son jeu, tu vois, pour vraiment être à fond dedans, et il y a moyen, enfin tu vois, c'est le genre de jeu, en tout cas tu peux clairement prolonger l'expérience avec des modes de jeu différents, te foutre derrière des paravents, avoir le plan de la maison en plus grand, enfin il y a moyen de s'enrichir l'expérience, quoi.
Attention, t'es en train de faire de la surédition là, hein.
Non, mais tu peux le faire toi-même, tu vois.
Un pistolet à eau.
Tu peux le faire toi-même. Avec un pistolet à eau, voilà.
Tu te balades avec ton Murph.
Il y a presque moyen de le faire en vrai. Sauf que, en fait.
Avec un vrai piège à loup, tu poses.
Avec un vrai piège, avec un vrai pistolet. Non, mais. Alors, tu peux pas le faire en grandeur nature, parce que. Enfin, ce serait compliqué quand même. Tu peux être dans la même pièce sans te voir, tu vois.
Ouais.
Bah, si t'es planqué derrière le canapé ou derrière un rideau, ça marche.
C'est ça. Alors, c'est ce que je disais à Flavien à un moment. Je dis, alors, on a joué dans le canapé, c'était peut-être pas une bonne idée, parce que c'est la position dans le canapé, t'es à l'aise, t'es confort et tout, donc tu prends les choses avec un peu plus de recul. Je pense que si tu joues à une table, vraiment en face à face, je pense qu'il y a une tension un peu plus importante qui s'installe.
Le jeu de regard.
Ouais. Enfin bref, voilà, moi je vais l'acheter. En plus, c'est pas très cher, là. C'est quoi, c'est même pas 8€, je crois, à la caverne. Et j'attends avec impatience, du coup, le week-end pour que c'est joué, ou de revoir Flavien, tu vois, pour qu'on se tente une partie à 4 en mélangeant, ouais. Mais tu vois, avec deux jeux, je pense qu'il y a moyen de se faire quelques variantes à 4.
Non, mais d'ici le week-end proxy jeu, t'auras le temps d'avoir réfléchi à une version IRL.
Ouais, on pourrait jouer dans les pioles et dans les...
et d'après ce que tu dis, ça se prête très bien à jouer par Discord ou autre, quoi. T'as pas besoin de te voir si chacun a son jeu.
Oui, si chacun a son jeu, oui, je pense que tu pourrais, ouais. Ah ouais, je suis en train de réfléchir à ce qui pourrait... Non, parce que... Ouais, effectivement, ouais. Ouais, tu pourrais jouer via Discord, ouais, tu pourrais faire une petite application pour le gérer, pour être sûr que les gens ne trichent pas ou se plantent pas.
Ah ouais, bon. C'est clair.
Non, voilà, écoutez, je vous invite à l'essayer, soit Weekend Punk si je veux, soit...
Très intéressé pour l'essayer aussi.
Ouais, c'était une très chouette découverte. Franchement, dans la gamme, là, pour le coup, je pense que c'est celui-là qui m'a fait la plus forte impression depuis le début. Revolver Noir. Ouais, sinon, récemment, t'as joué à quoi, toi, Elodie ?
Alors, moi, j'ai joué à un jeu qui pourrait aussi se jouer par Discord, parce que c'est Château Aventure.
Ah, Château Aventure.
Voilà. Alors, j'ai pas joué à la deuxième boîte.
À la suite, ouais, c'est de la première version. Hein.
Ouais, j'ai toujours le premier... Et donc, il y a quelques temps, j'avais joué au scénario Nom de Zeus et puis Le Pays des Rêves Merveilleux. Et ce week-end, j'ai joué avec ma nièce qui se trouve à chaque fois un acolyte pour jouer, pour faire son sidekick. C'est vraiment ça. Hein. C'est elle qui menait tout.
Ouais.
Et l'autre à côté, il avait juste à acquiescer. Parce qu'on n'a pas tout à fait appliqué la règle. Enfin, la règle dit... ce que j'aime beaucoup dans ce jeu-là, c'est que la règle, elle dit « Faites un peu ce que vous voulez aussi, comme vous voulez. » donc pour quelques mots sur le jeu, sur Château Aventure, il y a une personne qui va jouer l'ordinateur, parce qu'on est dans une espèce de simulation de point and click, ou de jeu textuel sur ordinateur, et les deux autres vont jouer, enfin les autres joueurs et joueuses, là pour le coup on a joué à trois à chaque fois, vont jouer les joueurs sur l'ordi et donc donner des instructions à l'ordinateur. Genre, aller dans telle pièce, ouvrir le coffre, parler à la princesse, au lapin, au chat ou à qui on veut. Moi, à chaque fois, j'ai joué l'ordinateur, qui est un peu le maître de jeu, si on relie ce jeu-là à un jeu de rôle. Je pense qu'on est sur une initiation de jeu de rôle un peu aussi.
Oh, bah ça reste, pour moi, c'est un simili jeu de rôle, hein, malgré tout. D'ailleurs, ça avait été repris à la base par un éditeur de jeu de rôle.
Donc oui, on est sur l'idée d'un jeu de rôle avec hyper guidé. Donc pour le maître de jeu, moi j'ai jamais fait maître de jeu dans un jeu de rôle. Donc là c'est vraiment le fait que ça soit très guidé, qu'on n'ait pas de préparation en amont à part de lire les quelques pages du scénario. Je trouve ça hyper agréable. Le fait aussi qu'on soit un ordinateur un peu débile allège aussi la part d'improvisation qu'on a à faire. Quand on ne sait pas quoi dire, on a juste à dire « j'ai pas compris ce que vous me demandez » et ça passe vraiment bien. Et on peut rendre chèvre les autres joueurs en faisant ça.
Ouais, carrément.
Ou en relisant. Ce que je trouve vraiment cool, c'est le fait qu'on puisse vraiment moduler la difficulté du jeu en tant que MJ. Ce qui est le cas sûrement dans la plupart des jeux de rôle en tant qu'MJ. Mais là, on a fait une première partie où on avait un peu de temps, donc j'ai pu un peu les faire tourner en bourrique, relire en entier les paragraphes, etc. Et une deuxième où on avait un petit peu moins de temps, donc là j'ai pu être un petit peu plus directive. Je leur avais donné la possibilité de dire stop pour m'éviter de relire les paragraphes.
Ah, oui. Ah t'es sympa.
Ouais, ah,
c'est
ouais,
pas
ouais.
Mal, c'est pas sinon, mal comme variante, c'est vrai que ça peut enfin c'est rigolo 2-3 fois, mais quand on arrive à 4-5 fois, ça peut vraiment vraiment saouler les joueurs et joueuses que t'as à la table quand même.
Voilà, donc comme dans certains jeux, tu avais cette possibilité d'appuyer sur stop et de passer le texte. Moi, j'aimais bien les jeux qui te permettaient de faire ça. Plutôt que ceux où tu devais à chaque fois te retaper toute la tapée de texte là. C'était assez insupportable. Et puis, la règle du jeu stipule que normalement, c'est un joueur puis l'autre qui vont prendre des décisions, mais qu'on peut, si on préfère, et avec des enfants plus jeunes, faire du full coop où ils discutent entre eux et ils prennent les décisions en collectif. Donc, on a plutôt fait ça. Jusqu'à un certain point, quand ma nièce, elle prenait absolument toutes les décisions et faisait absolument n'importe quoi.
C'est à trouver l'alpha.
Ils sont morts, je ne sais combien. Ils sont morts, je ne sais pas combien de fois. Dans le scénario où on joue dans un jardin, on est un peu sur une idée de Chéri, j'ai rétréci les gosses, avec un mini personnage qui doit se balader dans le jardin. Et ils n'arrêtaient pas de crever. Donc à un moment, je lui dis non, mais. Et puis mon beau-frère qui joue avec elle. Disait des trucs pas plutôt intelligents. Je disais, mais écoute David, arrête de prendre toutes les décisions, vous n'arrêtez pas de mourir. Sinon, je vais remettre comme dit la règle, chacun votre tour. Et donc, outre le fait qu'elle s'éclate à jouer à ce jeu-là, que moi je m'éclate à faire l'ordinateur, ça lui a aussi appris à écouter les autres et à avoir vraiment une relation d'entendre les idées des autres, d'être un peu moins dans une espèce d'excitation à vouloir aller partout et... Parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose de jouissif à vouloir aller dans tous les lieux, tout farfouiller et puis sans forcément réfléchir à ce qu'on fait. Et donc petit à petit, à se contrôler, à réfléchir, et c'était vachement intéressant, j'ai trouvé. Et du coup, elle a envie de faire tous les autres scénarios.
Tous
et
les
je
autres
pense
scénarios.
Que ça m'incitera.
Ah bah c'est cool. Ouais. C'est bien, t'as trouvé un public pour. Moi, j'en ai fait j'en ai fait quelques scénars, mais c'est vrai que ma boîte, elle est pas ressortie depuis longtemps. J'ai quand même acheté la suite, qui s'appelle d'ailleurs comme ça. Je crois que ça s'appelle Château Aventure, la suite.
Parce d'accord.
Que, j'avais vraiment kiffé le concept, quoi. C'est vrai que c'est... ouais, comme tu dis, c'est du simili jeu de rôle, mais relativement accessible. Après, il faut quand même tu peux pas y aller vraiment à l'arrache, quoi. Il faut quand même avoir lu le scénar avant. Il faut avoir pris au moins une demi-heure avant pour lire le scénar, avoir regardé un petit peu les embranchements, tout ça. Tu peux pas faire ça complètement à l'arrache non plus. Hein.
Mais, oui, non, mais
comparé à un autre jeu de rôle, c'est 4, sûr que...
4 ou 5 pages à lire, donc oui, comme tu dis, une demi-heure, peut-être même un peu moins. L'idéal, c'est aussi d'avoir imprimé les plans sans les objets pour pouvoir... Là, je crée la map au fur et à mesure qu'ils explorent les lieux.
Ouais, ils n'avaient pas mis les ressources pour ça en ligne, Yellow ?
Si.
Si, ouais.
Si, bah, je les ai imprimés. J'ai pas imprimé les objets, mais j'ai imprimé les cartes sans les objets.
Ouais.
Et c'est vrai que ça enlève de l'abstraction quand même d'avoir comme ça ces morceaux. Puis je les ai découpés, donc vraiment au fur et à mesure qu'ils explorent les lieux, je les pose. Et d'accord. Quand on, ah, quand ils perdent et qu'on revient à un point de sauvegarde, j'enlève tous les lieux qu'ils n'avaient pas explorés au moment de la sauvegarde. Pour que visuellement, ils sachent vraiment où ils en sont.
Ouais. Ça se trouve encore ça, Château Aventure ? Tu l'avais acheté il y a longtemps ou... Parce que là, ils ont sorti la suite, mais le truc d'origine, ça se trouve encore ?
Bah, on me l'a offert l'année dernière.
D'accord, donc ça se trouve encore.
C'est un pote qui nous l'avait offert et dont les filles devaient faire un scénario. Elles avaient prévu d'écrire un scénario. Je ne sais pas si elles vont le faire un jour ou pas.
Ok.
Mais du coup, on avait joué par Discord avec eux. Parce qu'ils étaient sur Toulouse. Et donc, comme quoi, celui-là, il joue super bien. On parlait des jeux qui peuvent se jouer à distance.
Ouais, c'est une bonne idée, effectivement. Bien à distance, quoi. Les jouer à distance. Même si là, pour le coup, ou alors, il faut que tu aies préparé les fichiers avant pour montrer les plans et tout ça, quoi. Mais ça reste du domaine du faisable.
Il avait la webcam. Et du coup, il mettait les lieux avec. Tu vois, c'était filmé. Et puis, on voyait ses mains au fur et à mesure mettre les lieux, quoi. C'était très cool. Puis, je pense qu'on a dû mettre nos caméras aussi.
Il faut que je le ressorte, moi. On l'a à la maison, on avait fait une ou deux parties. Ouais. On n'a pas rejoué depuis. Ouais. C'était sympa, j'ai un bon souvenir, même si j'en ai pas énormément de souvenirs. En tout cas, l'ambiance était sympa. Et c'était un des enfants, justement, qui faisait l'ordinateur. Donc, c'est une bonne initiation, justement, à un pseudo-jeu de rôle, ou en tout cas, à gérer un jeu. C'était intéressant.
Ouais, puis je pense que d'un scénario à l'autre... Alors là, avec la petite, on a fait les deux premiers qui sont des faciles. Et ceux que j'avais fait, c'était moyen et difficile. T'en as des plus ou moins riches aussi. Là, sur le premier, je trouve qu'il y a une histoire de princesse. La princesse, elle est vraiment stéréotypée. Donc, je l'ai un peu changée. Moi, je prends des libertés dans les jeux. Donc là, la princesse était un peu moins cucu, quand même. Mais du coup, j'espère qu'ils ont fait des personnages féminins. Enfin, là, je suis pas allée... J'en ai fait... Sur les quatre que j'ai fait, je peux pas... Mais j'espère que s'il y a des princesses, elles sont un petit peu moins stéréotypées sur le deuxième opus, quand même. Bon, bah voilà pour moi. Et toi, Drew, t'as joué à quoi ?
Alors moi j'ai joué à un jeu qui se joue absolument pas à distance, hein. C'est un bon jeu de plateau qui prend un petit peu de place sur une table, et c'est un jeu que j'avais acheté en brocante à jeu il y a quelques temps, j'avais trouvé pas très cher.
Raffeld encore.
Non, là c'était plutôt ma partie d'enfance qui aimait bien les dinosaures, hein, parce que c'est Dinogenix. Clairement, l'auteur du jeu, s'il n'avait pas envie de faire un Jurassic Park le jeu, je ne sais pas ce qu'il avait envie de faire, parce que c'est vraiment ça. Quoi. On sent bien qu'il y a tout ce qu'il faut. Alors, je pense simplement qu'il n'a pas pu avoir les droits, ou l'éditeur n'a pas pu avoir les droits, parce que c'est une petite boîte, c'est un petit éditeur américain à la base, mais clairement, on est dans le film plein pot. Et donc, c'est un éditeur américain que je ne connaissais pas, qui s'appelle Ninth Haven Games. C'était un KS à la base qui a un peu trébuché. Il s'est fait en plusieurs fois. C'était un peu bizarre. Enfin bref. En tout cas, c'est arrivé en France par la boîte de jeux.
Il y a quelques années.
Alors, KS, c'était en 2017, livré 2018-2019. Puis la boîte de jeux juste après, enfin, dans ces eaux-là, quoi. Quelque chose début 2020. Voilà. Et donc, l'auteur, c'est un auteur américain qui s'appelle Richard Kin, que je ne connaissais pas du tout. Et je suis allé voir. Et en fait, c'est le patron de Ninth Haven Games. Donc, en gros, c'est un jeu auto-édité, quoi. Donc,
Voilà. J'aime aussi bien servir que par soi-même.
Exactement. Et en gros, c'est un jeu de pose d'ouvrier où on va avoir un plateau principal assez classique où on a plusieurs actions représentées. Donc tu vas mettre ton ouvrier pour faire chaque action, avec chaque action limitée en nombre de places. Hein, comme ça, une petite tension sur faut que j'aille en premier ou pas. Mmh. Et à côté de ça, on a chacun son petit plateau individuel qui représente notre parc. Comme Disneyland, un parc en deux parties, avec la partie attraction dinosaures, on va dire, et la partie hôtel pour accueillir les visiteurs avec les restos et tout ça. Et en gros, dans ta main, tu as des cartes, et deux types de cartes. Tu as des cartes manipulation, qui sont des cartes à effet, qui vont te permettre de gagner des choses ou essayer d'aller chatouiller un peu tes adversaires, on va dire. Et tu as des cartes, hein, comme dans Jurassic Park, tu as des cartes ADN qui vont te permettre de recréer des dinos à partir de fossiles, voilà.
Ok, c'est comme ça que tu chopes les nouveaux dinos, quoi.
Exactement. Tu récupères de l'ADN à droite, à gauche, et c'est parti. Ça va se dérouler en 7 manches, et durant les manches, bah, tu vas aller acquérir des cartes dino pour pouvoir après les placer dans ton parc. Alors pour les placer dans ton parc, il faut que tu prévois les enclos, etc. Chaque dinosaure a besoin d'une taille d'enclos d'un certain...
Ouais, ça, c'est comme Ark Nova, quoi.
Voilà, c'est ça. Les T-Rex, il leur faut un gros parc, les Raptors un peu moins. Et pour faire tes dinos, bah, il te faut un certain nombre de cartes ADN. Typiquement, les Raptors, c'est 2 cartes Raptors. Les Diplodocus, c'est 4 cartes Diplodocus. Si jamais t'es un peu coincé, tu peux mélanger 3 ADN et tu fais un espèce de mutant, mais qui a des particularités un peu bizarres.
Mmh, en ajoutant de l'ADN de grenouille, quoi.
Ouais.
Comme dans Jurassic Park, quoi.
Il n'y a pas la grenouille, là. Hein. Si, dans Jurassic, c'était la grenouille. Mais c'est là, c'est, à mon avis, c'était trop visible si tu mettais de l'ADN de grenouille, donc il a dû se limiter quand même, je pense. Ouais. Et à côté de ça...
Il a choisi la salamandre à la place.
et donc, à côté de ça aussi, tu peux construire dans la partie hôtel, tu peux construire des bâtiments qui vont te rapporter des points, permettre d'accueillir plus de visiteurs, etc. etc. Et chaque dino, quand tu vas le poser, il va t'apporter des points sur 2 pistes, une piste de, en gros, popularité, alors ils appellent ça la piste de réputation, voilà, et cette piste-là, en gros, ben, ça va déterminer l'ordre du tour pour la manche suivante.
D'accord. Donc, pas la piste d'attractivité et la piste de conservation, non,
c'est pas ça. Ouais, ça ressemble, hein. Là c'est réputation, et l'autre piste, c'est la piste de valeur des dinosaures. Donc là, cette piste-là, elle est la somme, en fait, des valeurs de dinosaures que tu as dans ton parc à l'instant T. En gros, un T-Rex va t'apporter 7, un Triceratops 2, enfin voilà. Et ce qui est important, c'est que cette piste de valeur des dinosaures, si tu perds un dino, elle redescend. C'est logique, ouais, c'est la valeur de tes dinos. Mais surtout, ce qui est encore plus important, c'est qu'à la fin de chacune des 7 manches, c'est le nombre de points que tu vas marquer. Donc si tu as mis pour 11 de dinosaures en valeur, et ben, à chaque manche, tu marques 11 points. En gros, c'est un moteur de points.
Ouais.
Et c'est là où ça commence à devenir un peu bancal à mon goût, et ça m'a un petit peu chatouillé, c'est que cette piste, comme j'ai dit, elle a très peu de chances de redescendre. Hein. Pour la redescendre, il faut que tu perdes un dino. En gros, tu vas tout faire pour répondre à ses besoins. La taille de l'enclos, la nourriture, tout ça. Donc, tu as très très peu de chances que ça redescende. Et donc, il faut rester dans le même timing que les autres joueurs. Parce que si jamais il y en a un qui commence à monter sa piste... plus que les autres, comme c'est un moteur et tout le monde va faire des dinosaures en même temps, et ben, si quelqu'un prend de l'avance, il aura de l'avance pour le reste de la partie.
Ouais, t'as pas beaucoup d'interactions en fait pour aller gérer ça.
Les cartes à effet que j'ai citées tout à l'heure, elles ont très peu d'effets négatifs. Clairement, tu peux pas aller shooter le dino de quelqu'un. Tu peux lui faire perdre des cartes ADN pour le ralentir dans ses futurs dinos, mais en plus, c'est pas très très violent. Et en plus, quand les cartes sont un petit peu méchantes, elles te laissent toujours le choix de perdre 2 cartes ou perdre la nourriture ou de perdre 2 cartes ou de retourner un bâtiment que tu pourras réparer plus tard.
C'est méchant mais gentil quand même.
Voilà, c'est méchant, mais tu peux pas vraiment impacter fortement le développement de tes petits camarades.
Ouais. T'as pas une carte comète que tu peux leur balancer sur la tronche.
Alors, il y a des cartes en plus de ça que j'ai pas évoquées qui sont des cartes en gros Breaking News, elles s'appellent d'ailleurs, où au début de chaque manche, tu la retournes, mais tout le monde va faire l'action. Donc, si c'est un effet négatif, tout le monde va le subir. Ouais. Si c'est un effet positif, tout le monde va avoir l'effet positif. Donc, en gros, ça peut pas créer de vrai décalage ou de vrai rattrapage pour les joueurs qui seraient un peu en retard.
Ouais.
Bon.
Ça a l'air quand même fort classique tout ça. Hein.
C'est assez classique.
La carte événement que tu retournes au début du tour, la pousse d'ouvrier.
C'est ça. Il n'y a pas vraiment de nouveauté. Et là où je disais que ça m'avait chatouillé, bon, c'est un jeu de timing, pour l'instant il n'y a pas de problème, mais pour moi d'où vient le problème, c'est qu'au début de la partie, chacun va recevoir des cartes ADN et on commence comme ça la partie. Ce qui fait que si tu as un joueur qui arrive dans sa main de départ à avoir de quoi faire un super dino tout de suite...
Il y a 3 T-Rex, allez.
Voilà, et puis que les autres, ils ont 1000 ADN dans leur main, ils ne peuvent rien faire, et ben celui qui est avantagé, il va poser son dino, il va commencer à accumuler des points et ça va faire boule de neige. Et il sera devant. Et en gros, c'est un peu ce qui s'est passé.
Ah, voilà, mais c'est ça la vérité, t'as perdu.
Ah, ben voilà, ben, j'allais le dire. T'as deviné, j'ai perdu. C'est moi qui avais la main de merde au départ.
Ouais, ça parle avec à gagner, mais ça on le savait déjà.
Eh ben non, même pas.
Non, même pas.
Non. Et en plus, j'ai fait des trucs de dingo. C'est-à-dire que pour pas être trop en retard, parce que je voyais que ça commence à partir, j'ai posé un T-Rex sans enclos, sans rien, paf, en plein milieu de mon parc, comme ça, parce qu'il fallait pas que je perde trop de temps. Et du coup, ce qui se passe. Ça. Ouais, c'est bien, mais parce que ça m'a apporté beaucoup de points. Quand tu fais ça, le truc, c'est que du coup, tu réponds pas aux besoins du T-Rex, donc tu lances ce qu'ils appellent des dés de saccage. Donc des dés d'événements pas très gentils, et ton dinosaure il devient fou, en gros, et il s'attaque à tes bâtiments, à tes visiteurs, tout ça. Alors dans ma chance, le T-Rex, il a juste endommagé un bâtiment, que tu peux après
réparer. Il a juste bouffé un visiteur.
non, ça va. Mais t'as une phase où effectivement il bouffe un de tes visiteurs, donc voilà. Ouais, mais...
Ça c'est la bonne idée du jeu.
Ça fait un peu mauvais genre quand même.
Ouais,
bah, après,
ouais,
c'est
tu fais un peu
de...
les gros titres.
Ouais.
Ah, au pire, on en fera un film.
Ouais.
Et donc moi, j'ai juste endommagé un bâtiment que j'ai pu reconstruire derrière, mais en gros, même comme ça, j'ai pas pu rattraper le schéma qui était en train de se dessiner. Et en gros, à la fin de la troisième manche, on avait le classement définitif du jeu. Ça n'a pas bougé sur les quatre autres manches qui ont eu lieu. L'écart n'a fait que se creuser parce que chacun a fait son petit moteur de points. Après, chacun avait compris un peu le jeu et faisait un dinosaure par manche ou pas, selon les cartes que tu arrives à avoir, parce que tu es très tributaire du marché de cartes et des cartes que tu pioches. Et voilà, et au final, ça n'a pas bougé. Donc, mais c'est là où c'est un peu compliqué, dans le sens où, comme si tu as un joueur ou une joueuse qui a une main de carte très forte qui lui permet de faire son dinosaure dès le premier tour, il va prendre son envol et tu peux pas le rattraper, quoi. Donc, c'est pour ça que moi, je regarderais bien pour réduire un peu cet effet de main de carte de départ, soit par un draft, soit par un choix de carte au départ, t'en reçois plus et t'en jettes, et voilà, pour essayer...
Oui, soit par la revente du jeu, hein, c'est encore plus simple.
C'est vrai. Ah, je vais quand même y rejouer, quand même, pour être sûr du coup, mais voilà, il y a pour moi cet effet classique, enfin, ce jeu est assez classique, donc on retrouve la mécanique dans plein d'autres jeux, donc pas besoin spécialement de le garder pour ça, mais voilà, voir si ce petit point de départ-là est vraiment répété ou si à moyen de
moduler. Non, mais tu rajoutes quelques cartes grenades que tu peux balancer dans les parcs des autres.
Ben, alors attends, moi j'avais à un moment, j'ai tiré une carte, c'est des cartes manipulation, ils appellent ça, où je disais tel type de dinosaure est malade, il rapporte moitié moins de points ce tour-là. Mais c'est moitié moins de points de pas grand-chose. Et si toi, t'as ces dinosaures-là, t'es aussi impacté. Donc en gros, c'est compliqué de créer des déséquilibres ou de ralentir d'autres joueurs. Donc voilà, moyen. Moyen, je vous le recommande pas spécialement, mais si vous le voulez, je l'amènerai au week-end proxy jeu, hein, si vous voulez vraiment.
Est-ce que c'est la version avec tout plein de meeples, des meeples?
Bah oui, forcément.
Ah,
forcément.
Bah tu peux la ramener au moins pour ça, pour faire des pyramides de meeples, comme ça, non?
Je te rappelle que c'était un KS à la base, donc au niveau des meeples, voilà. On est bien. Ouais.
Et est-ce qu'il y a il y a vraiment des chèvres dedans?
Alors,
en fait, tu donnes des chèvres à manger à tes...
C'est ça, tu donnes des chèvres à manger, donc il faut un certain nombre de chèvres en fonctionnant, mais là, pour le coup, c'est pas comme des meeple chèvres, c'est des tokens en carton chèvre.
Ah, mais les photos que j'ai vues, c'est des meeple chèvres, quoi. Pas la version tip-top.
Non, hein. J'ai pas
la
deluxe.
La version full, cool.
J'ai la version française de chez la boîte de jeu, j'ai pas pris le cas et ça attend. Ouais. Mais tu vois, encore une fois, la chèvre, comme dans Jurassic Park.
Et... Bah ouais, exactement. C'était bien le sens de ma question. T'as compris. Ouais,
voilà. Donc, vous voulez un Dinogénix? Non, vous voulez pas un Dinogénix?
Non, bah, j'avais plutôt regardé Jurassic Park.
C'est gentil, mais tu nous l'as tellement bien vendu que on va te le laisser.
Non, mais moi, je vais aller jouer à un autre jeu de la boîte de jeux qui aime bien les dinosaures, qui s'appelle Dinosaur World, et puis on va voir si c'est pareil. Quoi, ça.
Eh ben ouais, tu me diras si c'est mieux.
Et puis après, j'essaierai Dinosaur Island aussi.
Puis t'avais God Loves Dinosaur aussi.
Ouais, aussi.
Je sais pas chez qui c'était
ça. Puis un petit draft tout entre deux, histoire de...
On a un spécialiste du jeu de moutons, on a un spécialiste du jeu de pli, on aura bientôt un spécialiste du jeu de dino. Très bien.
Moi, j'attends.
Bah, les jeux de dino, j'ai toute une liste si tu veux, parce qu'il y a 2 ans, sur notre festival en Ardèche, à qui on donne un thème tous les ans, on avait fait Paléo Dino, donc on avait listé tous les jeux sortis autour des dinosaures.
Ouais, mais si Feld pouvait arrêter de faire des jeux de ville et faire des jeux de dinos, ça serait mieux quand même, là. Mince.
Envoie-lui un mail, demande-lui. Si ça se trouve, il va il va rethématiser. Ce sera plus les châteaux de Bourgogne, ce sera les châteaux T-Rex.
Bon, bah non, on va te laisser aller essayer un nouveau jeu de dinos, alors.
Ouais, c'est clair.
Allez. Bon, bah moi, je vous laisse, en tout cas. Je vais voir si je peux pas aller faire une petite partie avec Flavien sur BGR.
Ça marche. Allez, à la prochaine. Allez. Salut.
Ciao, jouez bien.
Bonne soirée à vous, les gars.